il faut un MeToo musée.
Ça MeToo, tout à fait ça. Mais...
Était parce que les choses sont en train de s'inverser.
Mais alors ça c'est vraiment, puisque vous êtes historien d'art tous les deux, mais Philippe Canel, je me tourne vers vous, il y a une vraie tendance dans les travaux des historiens, en musique c'est très clair aussi, on va rechercher les compositrices, au cinéma on apprend que les premiers films scénarisés c'est une femme, j'ai oublié son nom mais ça m'avait assez marqué de l'apprendre. Vous vous inscrivez dans cette vague-là qui est une vague très positive.
Oui mais on n'est pas militant pour autant, on n'a pas de cause à défendre. On aimerait simplement rendre compte d'une partie des collections de la Fondation Atelier d'Artistes et se trouve qu'une partie signifiante, enfin importante de ces collections est constituée par des œuvres de créatrices. Donc c'est ça la démarche. On ne va pas, ici, dans le cadre de cette exposition, faire du militantisme. Ça sera peut-être le discours tenu par les artistes qu'on va inviter pour diverses tables rondes, mais on verra. On verra.
On va pas tirer de généralité, mais elles ont eu des vies d'artistes sereines, difficiles, frustrées. Si on pense justement à cette invisibilisation, à cette difficulté à s'accrocher aux cimaises des galeries, pour ce qu'on en sait.
C'est très variable.
Il y a sûrement des destins variables, bien sûr.
C'est très variable. Tous les artistes ne sont pas Van Gogh ou Picasso, hein. Torturés ou dominants. On a tous les cas de figure dans le cadre de ces artistes. Il y a des femmes qui ont vraiment, comme je l'ai dit, joué un rôle important, institutionnel, des femmes fortes, vraiment, comme Violette d'Iseran, Christiane Cornu, Nanette Genoux. Et puis, d'autres femmes qui ont plutôt misé sur soit les arts appliqués, soit une certaine forme d'intimité.
Mmh. Et même, par exemple, Christiane Cornu, elle enseignait, donc elle réalisait ses créations pendant les vacances. Donc il y a aussi... Il y a vraiment des artistes, même si c'était une artiste forte, elle devait quand même travailler aussi en tant qu'enseignante à côté.
Est-ce qu'on a théorisé, Philippe Canel, quand des femmes surgissaient, on parlait de Camille Claudel par exemple, mais il y en a eu d'autres, des impressionnistes, etc. Est-ce que les critiques d'art de l'époque, garants du bon goût, théorisaient une faiblesse de la femme par rapport à la création masculine? Je pense à ça parce qu'en musique, toutes les critiques sur Germaine Taillefer par exemple, qui faisait partie du groupe des Six dans les années 20, c'était, voilà, très bonne musicienne, mais c'est joli, c'est frais, c'est aéré, etc. C'était que des mots comme ça, des mots qu'on estimait devoir étiqueter sur la femme, et jamais on aurait dit les mêmes mots sur Francis Poulenc, qui était son copain du groupe des Six, par exemple.
Aujourd'hui, dans un autre domaine qui est celui de la politique, les remarques sur les tenues vestimentaires des femmes sont pas monnaie courante, mais sont fréquentes. On ne parle jamais de la tenue vestimentaire des hommes. Non, indépendamment de ça, c'est vrai que l'aspect femme est un aspect qui a toujours été pris en compte dans le discours critique, souvent de manière critique au sens négatif du terme, mais ça n'est pas le facteur explicatif de leur vie et de leur carrière. Ça n'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles ont réussi ou qu'elles n'ont pas réussi. Il y a toute une série de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là, on pourrait venir parler de certaines figures exposées pour voir dans quelle mesure certaines venaient par exemple de milieux bourgeois, n'avaient pas trop de questions à se poser pour faire bouillir la marmite. D'autres, par contre, ont vraiment trimé toute leur vie. Certaines ont pratiqué l'abstraction et donc essayé de miser sur cette modernité-là. D'autres ont misé plutôt sur la figuration. Léa a travaillé beaucoup sur l'abstraction, par exemple.
Oui, parce que c'était un mouvement qui, à la première moitié du XXe siècle, était de l'avant-garde, donc qui était considéré comme un geste plutôt viril et masculin. Et donc, à la deuxième moitié du XXe siècle, il y a énormément de femmes qui se sont consacrées à l'abstraction. Donc, pourquoi cela? Est-ce que tout d'un coup, c'est une manière de s'éloigner d'une certaine féminité, comme vous parliez par exemple dans la critique? Donc, d'avoir un geste qui va s'éloigner de ces remarques qui peut parfois être un peu sexistes, ou juste une manière de pouvoir s'intégrer à des cercles voilà, l'abstraction à la deuxième moitié du XXe siècle s'était adoptée, que ce soit aux États-Unis, en France, donc pouvoir aussi rentrer dans des cercles nationaux, internationaux.
Et des cercles de vente, j'imagine.
Aussi, effectivement.
Même s'il ne fallait pas toujours faire bouillir la marmite, il fallait voir, être vu et possiblement vendu. Merci à tous les deux. Cette émission se termine. Femmes et artistes après 1930, donc jusqu'au 7 juillet à la Fondation Atelier d'Artistes, donc c'est dans la Grand-Rue de Saint-Maurice, et avec quelques événements les samedis. Oui. Juste un mot, c'est ouvert, c'est pas ouvert tout le temps, la Fondation.
Non, c'est pas ouvert tout le temps et c'est gratuit.
Ah bah ça c'est bien.
Ça il faut quand même le préciser.
Voilà, c'est ouvert les vendredis et samedis après-midi, les premiers dimanches du mois.
C'est
bénévole, pas les moyens de conserver toutes les œuvres de Suisse romande et en plus d'être ouvert tous les jours.
C'est ça, on peut pas tout faire.
Et en plus il y a une belle publication que vous pouvez acquérir sur place, éditée par les éditions Infolio.
Voilà, qui a le même titre bien sûr, richement illustré, que l'exposition Femmes et artistes après 1930. Merci à tous les deux.
Merci. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La minute hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui dans la minute hawaïenne, flashback. Cette année-là, le tunnel sous la Manche, un tunnel reliant la France et l'Angleterre sous la mer, était inauguré. Steven Spielberg gagnait l'Oscar du meilleur film avec La Liste de Schindler. Les Jeux Olympiques d'hiver se tenaient à Lillehammer, en Norvège. La Coupe du Monde de foot pour la première fois aux États-Unis. Cette même année, à Seattle, Kurt Cobain se suicidait par balle, en laissant une lettre où il disait « Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu ». 35 jours plus tôt, Justin Bieber naissait à London, dans l'Ontario, au Canada. Mais restons sur un souvenir positif, car cette année-là, une chanson qui était passée inaperçue lors de sa sortie 9 ans plus tôt renaissait de ses cendres pour rencontrer un succès international. C'était « Living on my own » de Freddie Mercury. Et rien que pour ce « Little Lady », sérieux, « Little Lady », qui fait ça de nos jours? Rien que pour ça, ça aura valu la peine de vivre en 1994.
La minute hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
L'espace parallèle au pied du Bois Noir propose un très riche et varié programme d'animation. On en parle avec Gilles Vuisseau. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Vuisseau, vous allez nous expliquer un petit peu justement ce programme de ces prochains jours. Déjà, si je ne me trompe pas, ce soir, il y a de la musique improvisée. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors oui, ce soir, musique improvisée, ça commence à 19h. Musique improvisée dans le sens où on reprendrait des standards de jazz, qu'on joue ensemble, etc. Mais c'est vraiment un espace de création, d'écoute, où on improvise ensemble, où on peut même inventer des langages musicaux avec une écoute toute particulière.
Mais alors ça s'adresse à qui? Est-ce que si moi, tout à coup, qui suis une chèvre en musique, mais qui a envie de participer, je peux venir ou comment on fait?
Alors, en général, c'est plutôt des gens qui sont dans le milieu musical, effectivement, ou des amateurs éclairés au minimum. Par contre, en tant que public, tout le monde est le bienvenu.
C'est ça qui est chouette, justement. Alors, musique improvisée, c'est ce soir et c'est chaque premier jeudi du mois. Et puis alors, demain, qu'est-ce qui se passe? C'est le chant des lieux. C'est Wikia, c'est ça?
Wikia, le chant des lieux. Le chant des lieux, c'est un collectif formé d'Émilie Vuisseau et Didier Métraillé, qui se sont associés à Noémie Delalleuil, qui est audio-naturaliste et qui leur a donné des enregistrements d'oiseaux. Wikia, ça signifie oiseau de nuit en patois du Val d'Anniviers.
Ok, excellent. Et puis, dernière chose, singularité plurielle. Ça, c'est pour ce 5 mai prochain de 16h à 17h. Sisterwood, singularité plurielle, qu'est-ce que c'est de beau?
Alors, les Sisterwood, c'est un collectif de 7 femmes hein, qui sont formées aux outils du Life Art Process. Le Life Art Process, c'est une technique hein, ou une approche qui mêle le mouvement, la danse, le dessin, l'écriture et l'improvisation avec en y glissant des expériences personnelles. Donc, ils ont été en résidence aussi, hein, quelques jours, et là, ils font une sortie de résidence où ils présentent un peu leur travail, et justement, ils font découvrir aux gens ce qu'est le Life Art Process.
Alors, toutes les infos, on les retrouve bien sûr sur espaceparallèle.net, espaceparallèle.net, c'est au bord du Bois Noir, l'espace parallèle, avec ce soir, on le rappelle, musique improvisée. Gilles Visson, merci beaucoup, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour développer le concept et présenter le concept de l'espace parallèle. Ça vous va?
Merci beaucoup pour une belle journée.
Toute bonne journée, au revoir.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Show, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit. Le Mag, c'est tellement de trucs, tellement bien, dans une région tellement mieux que la plus grande radio du Chablais au monde est obligée de tout les raconter du lundi au vendredi après le journal de 17h. Des trucs cool du genre rencontrer la voix française de la Reine des Neiges et d'autres personnalités de la comédie musicale. Si, si, à Montreux, c'est possible. Car une école spécialement dédiée à cet art, la comédie musicale donc, a ouvert en août sous l'impulsion de deux passionnés. Pour l'heure, ils proposent uniquement des stages lors de vacances, mais Florian Beauvais et Christian Farin, les deux fondateurs, aimeraient développer des cours annuels pour permettre aux jeunes talents d'éclore, mais surtout de vibrer sur scène. Martine Wistiner est allée rencontrer ses deux professeurs de chant pour savoir comment cette école a vu le jour.
Mon rêve, c'était de pouvoir un jour créer ma propre école, puisque dans toutes les écoles dans lesquelles j'ai enseigné, qui étaient vraiment super, il y a des choses qui me gênaient ou des choses que j'aurais voulu différentes. Et le fait d'être professeur dans le public, on a chaque année des enfants avec qui on fait des spectacles, et j'étais certain de pouvoir réussir à mêler ce que j'avais pu avoir comme expérience à Paris avec l'ambiance qu'on a dans le scolaire, c'est-à-dire sans prétention, sans élitisme. Le but, c'est de chanter, de créer des spectacles. Et puis, j'ai rencontré donc Florian Beauvais, avec qui on a partagé la préparation de plusieurs spectacles, et on a vite accroché, et on s'est dit peut-être que ce serait ensemble qu'on arriverait à faire démarrer cette école parce qu'on est complémentaires.
Et pour vous, du coup, Florian, vous avez rejoint cette aventure. Vous êtes aussi passionné par ce milieu de la musique, de la comédie musicale.
Alors, je suis aussi passionné par tout ce milieu-là. Moi, j'ai une formation classique de chef de chœur et chef d'orchestre. Et puis, comme Christophe a dit, on est très complémentaires. Moi, j'aime bien tout ce qui est des aspects organisationnels. Et puis, on a bien vu qu'il y avait un petit peu un manque quand même dans la région au niveau de la comédie musicale et qu'il y avait quelque chose à faire.
Qu'est-ce qui différencie une école de comédie musicale par rapport à une école de musique, une école de chant, une école plus classique ?
En soi, il pourrait n'y avoir aucune différence. Tout dépend de la direction que va choisir un conservatoire ou une école de musique. Nous, l'idée, c'est de pouvoir présenter aux enfants tout de suite de monter sur scène. L'objectif, c'est d'avoir un spectacle ou deux par an et de monter sur scène en mélangeant les arts, donc le chant, la danse, le théâtre, autour d'un thème et de proposer à nos étudiants de pouvoir aussi rencontrer des professionnels du spectacle. Ce qui se fait un peu moins dans les conservatoires, en tout cas de ce que je connais, faire rentrer des chanteurs de comédie musicale, par exemple.
À qui est-ce qu'ils sont destinés les cours que vous donnez ?
Le but, c'est de pouvoir ouvrir vraiment au plus de personnes possible. Donc là, on a commencé plutôt un petit peu avec des stages et des masterclass plutôt destinés aux enfants, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais il n'y a pas d'âge pour être sur scène, il n'y a pas d'âge pour chanter, pour danser.
Est-ce qu'il y a d'autres prérequis quand on veut intégrer ? Il faut quand même déjà connaître un peu de la musique, savoir faire quelques pas de danse, avoir un peu d'expérience, ou on peut venir complètement novice et découvrir cet univers grâce à vous ?
Alors en fait, c'est assez évident qu'en fonction des écoles, en fonction du niveau de l'école, de la réputation, parfois il y a des castings d'entrée, il y a des choses comme ça, où on va déjà chercher des jeunes ou des enfants qui sont très très doués. Nous, Florent comme moi, on est vraiment enseignants en public, on a nos chorales de collège, et ça fait 20 ans qu'on se rend compte qu'il y a des vraies pépites. Et donc, moi je crois que vraiment le premier prérequis, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si un enfant aime chanter, danser, il faut absolument qu'il essaie. La priorité, c'est pas la voix. La priorité, c'est les étoiles dans les yeux et puis dans le ventre, quoi. Moi, mon premier prérequis, c'est est-ce que t'as très envie de faire ça? Est-ce que vraiment t'es mordu? Est-ce que tu vas t'enchaîner des disques de comédie musicale? Est-ce que t'as envie d'aller à Londres? Est-ce que t'as envie de ça?
Qu'est-ce qui vous plaît vraiment à vous dans l'art de la comédie musicale qui est finalement assez complet?
Moi, je suis un fou, je suis un passionné depuis tellement d'années, que ce soit en allant à Londres ou à New York, et ça a toujours été la réponse la plus simple du monde. C'est-à-dire, en fait, moi, j'aime qu'on me raconte une histoire et qu'on utilise la musique pour me faire passer les émotions. C'est ça que j'adore dans la comédie musicale, c'est qu'on vient raconter une histoire et on utilise le chant pour faire passer l'émotion.
Pour vous aussi, Florian?
Je rejoins entièrement Christophe. C'est vraiment le fait d'avoir une histoire. Pour moi qui suis chef de chœur, qui dirige tout style de musique, mais on a quand même une grande tradition chorale en Suisse, avec quand même majoritairement, je dirais, des chœurs statiques, pas dans le sens péjoratif du terme, mais là, de pouvoir raconter quelque chose, d'avoir quelque chose qui est vraiment plus vivant, c'est vraiment ce qui nous anime et qui nous motive à aller de l'avant avec ce projet.
Vous donnez des stages, comment ça se passe?
Ça se passe bien. Ce qu'on a mis en place là pour commencer, donc c'est des stages de vacances. Donc ça, c'est le premier axe qu'on a développé avec les masterclass. Maintenant, notre objectif, c'est de pouvoir lancer des cours, des ateliers hebdomadaires aussi. Donc idéalement dès la rentrée de septembre. Et puis de pouvoir suivre les jeunes vraiment sur une année entière et de créer des spectacles.
Ce qui est vraiment chouette dans ce qu'on propose, c'est que c'est vraiment passer une semaine ensemble, c'est-à-dire manger aussi ensemble, tout est compris dans le stage et aussi le repas, parce que même si ça peut paraître anecdotique, de passer du temps ensemble, pas que sur scène, pas que en répétant, mais rire aussi, manger ensemble, faire une sortie, aller au bord du lac, ça fait partie aussi de la troupe, réussir à faire naître ce sentiment de troupe, d'appartenir, non pas, je suis pas le chanteur du spectacle, mais je fais partie d'une troupe, il y a cette volonté. Donc aujourd'hui, comme on n'a pas encore des cours hebdomadaires, si on veut découvrir, il faut venir passer la semaine avec nous.
Vous disiez quelque chose de très important, c'est que la comédie musicale, c'est une troupe. Ça aussi, par rapport au fait que vous touchez aussi des enfants, c'est important justement cet esprit de cohésion, cet esprit de groupe.
C'est très important. Vraiment, l'esprit de groupe, c'est ça qui donne vie vraiment à un spectacle. On peut aller voir des fois des spectacles de professionnels vraiment de très haut niveau, où tout est parfait, il n'y a pas une note à côté, il n'y a pas un geste à côté. Et en tant que spectateur, on se dit, mais j'ai rien vécu. Et donc, le fait de vivre ensemble, de passer du temps ensemble, c'est extrêmement important. Et puis on y tient beaucoup avec Christophe. Il y a aussi vraiment cette volonté de créer du lien entre les êtres humains. On a envie vraiment d'être un lieu qui est aussi reconnu pour sa bienveillance, où on met l'élève au centre, où il peut venir avec ses émotions, il peut exprimer ce qu'il ressent, comment il se sent. Chez nous, il n'y a personne qui gagne ou qui perd. C'est tous ensemble qu'on crée un projet et qu'on en ressort avec des étoiles dans les yeux.
Notez encore que l'école musicale Riviera donne un stage à Montreux du 1er au 5 juillet autour de l'univers. Attention, The Queen.
Radio Chablais, programme de nuit.
On continue ce mag avec un constat. Les fortifications de Saint-Maurice se portent. En fait, les forts du C, situés à l'intérieur de la falaise surplombant la cité agonoise, sont confrontés à plusieurs problèmes qui pourraient entraîner à terme leur fermeture définitive. Les téléphériques servant à acheminer le matériel et les guides ne sont plus aux normes et le coût de leur transformation avoisine le million de francs. Pour l'heure, la Fondation Forteresse Historique, propriétaire des lieux, a opté pour une fermeture du C en attendant de trouver une solution plus pérenne. Valérie Favre a voulu découvrir quel est ce patrimoine à sauver avec Serge Monera, le président de la FFH, et Pierre Frey, le responsable infrastructure.
Voilà, nous sommes arrivés. Alors attention, juste la tête. Allez seulement. Ah ben, juste peut-être un petit coup d'œil. Vous voyez ici, un petit local avec tout le matériel et les équipements pour les pièces, donc pour tout ce qui concerne la mécanique et puis les mécaniciens de pièces. Vous voyez, donc tout est encore bien là.
Ouais.
Voilà. C'est pas que des locaux vides, on a vraiment beaucoup de choses à montrer. Et puis ça, c'est la chambre des militaires, une des sections, un dortoir de 36 places. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'était le sac couchage? Donc, vous voyez, 36 places. Mais, il y avait plus de 100 militaires.
Ouais, donc, mais parce qu'il y a des tournus.
Exact. Ça veut dire que le lit était toujours chaud, en fait.
Ouais.
Puisque l'idée, c'était 8 heures aux armes, instruction ou au combat, 8 heures pour manger, le loisir, et 8 heures dormir. C'était donc des tournus de 8 heures. Donc, il y avait toujours ici des gens qui dormaient. Alors, le matin, c'était rouler le sac couchage, et puis mettre sur les armoires. Les suivants arrivaient, hop. Donc, je vous laisse imaginer la camaraderie et le maintien de l'ordre, la discipline militaire était, mais vraiment, poussée. Mm. Et ici, les troupes de forteresse, ça c'était la force, ça je dois dire. La force des militaires ici, c'était beaucoup le respect d'autrui. Dans les années 2000, jusque pratiquement en 2010-12, on a construit des lance-mines de forteresse. Et là, entre le Grand Saint-Bernard et le fort de Chillon, il y a 7 lance-mines forteresse bitume qui ont été montées. Un qui est visitable, c'est à la Daï, et le deuxième, c'est à Saxon. C'est les deux seuls lance-mines en Suisse visitables. Pour l'instant, les autres sont tous fermés.
Ouais.
Voilà. Voilà un petit peu. Donc, vous imaginez cette richesse patrimoniale pour la région de Saint-Maurice. Et je trouve franchement dommage que les écoles ne pensent pas à venir voir l'histoire militaire de notre pays. Là, on a la troupe avait baptisé Batteuse. Alors, venez, c'est un magnifique
dortoir. Il possède 139 casiers du temps où on avait encore des lits avec la paille comme matelas. Et puis quand ils ont mis les matelas, on s'est limité à 4 niveaux de 30, donc 120 places.
La batteuse...
C'était l'allusion au bruit que faisait le ronflement sur 120 personnes. Ah. Il y avait entre 10 ou 20 ronfleurs.
Et c'est le seul fort de ce type. Ça, vous ne pouvez pas voir ailleurs.
Ouais.
Parce qu'il y a le cumul des époques. Vous allez à Gondeau, il y a un fort historique extraordinaire. Mais il n'a pas été modernisé. Là, vous allez en arrière. Tous les locaux arrière, c'est de la Deuxième Guerre. Tous les locaux avant, c'est de la Première Époque. Et puis, encore plus en arrière, il y a la dernière étape entre 1948 et 52 avec la nouvelle infirmerie et la centrale téléphonique automatique. Également la centrale de guerre, hein, qui est tout manuel, mais...
Non, on est devant. Moi, c'est un crève-cœur parce que c'est un fort que j'ai beaucoup apprécié, même que je l'y ai vécu, puisque j'étais dans un cours de répétition ici aussi, mais comme officier. Et effectivement, quand on voit ça, c'est une beauté. C'est le seul fort en Suisse de ce type. Hein. Et vous imaginez, vous êtes dans un fort, c'est 1911. On ne se rend même pas compte. Et voyez l'état de beauté que ce fort a. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis un peu écœuré, mais bon, voilà. Voilà.
Et pour celles et ceux qui aiment visiter ce type de structure, sachez qu'il est possible de découvrir, par exemple, de quelle manière l'air était protégé des attaques au gaz, mais également les alarmes ou encore les documents secrets de la Seconde Guerre mondiale, sans parler des canons. Toutes les informations se trouvent sur le site internet de la Fondation Forteresse Historique.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On va terminer ce mag avec un sujet pour le moins original, me direz-vous, mais qui, d'une certaine manière, concerne pas mal de jeunes aujourd'hui. On va parler de bullying. Parce que venir en aide à des enfants victimes de harcèlement physique et moral, c'est l'objectif de l'association romande Les Templiers. Particularité de l'association, elle est essentiellement composée de motards qui œuvrent bénévolement. Fondée en 2021, cette entité compte près de 60 membres qui apaisent les jeunes en souffrance, en les accompagnant notamment sur le chemin de l'école. Une démarche qui ne laisse forcément personne indifférent, mais qui s'accompagne de son lot de difficultés. Pour faire la lumière sur les Templiers et son fonctionnement, Xavier Borgeot a rencontré le Montaisan Pascal Rigaud, membre exécutif du comité de l'association Les Templiers Post Tenebras Lux.
Nous, on est là, on a un peu une épaule, en fait, où on essaie de sortir les enfants qui souffrent de ces situations, de leur tracas quotidien, leur proposer de faire des accompagnements, de leur redonner un petit peu confiance, d'avoir une image un peu plus visible sur le rapport de force, en fait, qu'ils auraient dans leur vie à eux.
Et il y a aussi une volonté de leur faire prendre confiance en eux. Ça, c'est aussi peut-être une démarche qui est sous-jacente derrière l'accompagnement que vous faites.
Alors, c'est pas forcément la volonté, mais je crois que c'est la conséquence, en fait, de ce qui se passe. Nous, on vient, alors, avant d'accompagner un enfant, on s'assure que la situation elle soit lancée, elle soit acceptée. Mais le but vraiment principal, c'est d'être une épaule et puis le fait de l'accompagner, bah, qu'il reprenne confiance en lui.
On peut le sentir, c'est quand même une démarche qui est sur le fil du rasoir, parce qu'on flirte un petit peu avec la justice. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça? Je suppose que vous avez des contacts, ou en tout cas des échanges avec les différents corps de police, parce que vous n'êtes pas des justiciers, vous êtes vraiment des grands frères, vous accompagnez, mais c'est pas un travail de police, quoi.
Non, c'est clair, on n'est pas des justiciers, on est vraiment du côté de la loi, on respecte la loi. On respecte les limites aussi qu'on a. Toutes les demandes d'aide qui viennent chez nous, elles passent vraiment par un processus qui est bien défini, qui est décrit. On a un comité d'évaluation qu'on a nommé. On a la chance d'avoir chez nous des gens qui fonctionnent, hein, en tant que psychiatre ou en tant que dans les forces de l'ordre, etc. Donc on a un environnement qui nous permet de s'assurer qu'on soit juste dans la démarche qu'on fait. Donc chaque demande d'aide, elle passe par ce comité d'évaluation qui fixe en fait les suites à donner. Puis ensuite, avant de faire quoi que ce soit, on va visiter la famille qui a fait appel à nous. Et puis l'objectif, c'est de discuter avec l'enfant lui-même. Donc on va toujours à plus que deux pour s'assurer que bah, il n'y ait pas d'autres problèmes qui soient générés par ça. Et puis on va écouter l'enfant. En fonction des cas, bon, on destine une stratégie. On n'a pas de stratégie définie au départ, mais c'est vraiment en fonction de la discussion qu'on a avec ses enfants, puis aussi avec les parents. On dit ok, bah, les prochaines étapes, ça va être ça, ça et ça. Une fois qu'on a regroupé ces informations, on retourne vers notre comité d'évaluation, toujours les mêmes personnes, et puis on remonte ces informations. Puis là, bah, celui qui est, par exemple, dans les autorités va nous dire « Fais attention à ça, si tu vas à cet endroit-là, il faut faire ces démarches-là, etc. » Et puis les psys vont nous dire « Écoute, va pas trop loin dans l'affectif ou des choses comme ça. » Donc on a des mises en garde par ce comité d'évaluation. Puis après, on fixe une date et puis on intervient.
Et quand vous intervenez, est-ce qu'il y a un contact aussi qui est fait auprès des corps de police?
Alors, quand on intervient en milieu scolaire, on fait toujours une annonce à la direction des écoles et à la police locale. Mais systématiquement, on annonce, ouais, notre venue. On ne dit pas quand, on ne dit pas pour qui, mais on dit qu'on va venir.
Et comment réagissent les établissements quand vous les contactez?
Alors, depuis peu, ben, les directions sortent un petit peu dans la cour pour voir ce qui se passe et viennent vers nous. Alors, c'est vrai qu'il a fallu du temps, il a fallu plusieurs fois pour arriver, peut-être aussi de la visibilité dans la presse, hein, qui a donné une certaine crédibilité à ce qu'on faisait. Donc là, ils viennent au contact de nous demander effectivement de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que ils ont déjà certainement mis des choses en place, mais qu'est-ce qui se passe maintenant au moment où on est sur place.
Et je suppose que concrètement, vous mettez aussi des limites pour vous, pour vous protéger aussi, parce que vous l'avez dit, vous n'êtes pas des professionnels, vous le faites avec le cœur. C'est difficile à poser ces limites.
Alors en fait, c'est toute l'ambiguïté de cette mission qu'on s'est donnée, c'est qu'effectivement, on n'est pas des professionnels et on intervient dans un milieu où il y a beaucoup de vues professionnelles. Par contre, nous, ce qu'on est convaincu, c'est que avant que les choses établissent, mettent en place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les différents organismes, avant que ça se mette en place, il y a toujours un temps long, plus ou moins long, mais qui est souvent très très long pour les enfants qui souffrent, où il y a personne qui s'occupe d'eux. Donc nous, on veut prendre cette place-là, on veut prendre ce rôle-là, pas en venant avec des conseils, des choses comme ça, mais simplement en étant à l'écoute et puis en accompagnant l'enfant qui souffre dans ses différentes activités. Alors si c'est un problème sur le trajet de l'école, ben on va venir une fois, deux fois, si ça s'est pas résolu, une troisième fois, effectivement, peut-être. Donc chaque intervention, chaque cas qui est rentré dans notre association, donc nous on les intègre, on appelle ça notre famille, on les intègre là-dedans, on a un peu une famille un peu plus élargie, on les intègre chez nous et on les suit, donc ils ont systématiquement deux parrains ou marraines qui sont nommés, donc des membres de notre association, proches de leur endroit où ils habitent, qui peuvent répondre en fait 24 heures sur 24 au problème de l'enfant. S'il est inquiet, s'il a des inquiétudes, ils peuvent appeler directement ces personnes. On est tous bénévoles, hein, je rappelle, à part ça. Mais on met ces deux personnes à disposition. Alors elles sont sollicitées raisonnablement parce que bah, c'est vrai qu'il faut faire l'effort d'appeler, etc. Donc ils sont pas forcément très à l'aise. Mais nous après systématiquement on suit ces gamins. Chaque mois on fait un téléphone dans les familles pour savoir comment ça se passe. Et puis on a des critères de suivi. On a 4 grades de suivi. On a déjà depuis 2022 qu'on est en fonction, on a déjà à peu près une dizaine de cas qu'on suit plus sur les 76 enfants qu'on fait appel à nous depuis août 2022.
Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir continuer ce travail de l'association, peut-être plus sereinement, ou peut-être une fois ne plus avoir ce travail, parce que ça veut dire que vous auriez réussi?
Alors ouais, le but c'est de plus avoir ce travail, ça c'est clair, mais je pense pas que
c'est
ça
utopique,
ouais, c'est un peu utopique quoi. Non, nous ce qu'on a vraiment envie, c'est qu'on puisse être, qu'on soit un maillon de cette chaîne de la protection, et puis qu'on puisse être reconnu dans cette part de période où finalement les autorités n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir faire quelque chose, et puis qu'il y a personne, ces enfants ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont la boule au ventre avant de partir, et puis nous on est là pour, nous on peut donner ce temps pour répondre à ce problème-là, donc on aimerait être accepté ou toléré ou reconnu pour cette période-là dans le processus
donc
de protection de l'enfant.
Être un des maillons officiels d'une chaîne dans ces cas de figure, ça serait un petit peu ça.
Alors ça nous faciliterait vraiment la vie pour avoir des contacts et des interactions avec les autorités, des choses comme ça aussi, pour nous améliorer, faire mieux nos choses. On utilise cette image de biker parce qu'on sait que c'est un message qui est pas interprétable. C'est facile, on comprend pourquoi on est là. On est dans le rapport de force, de la protection de l'enfant. Mais c'est clair que cette image, elle génère aussi beaucoup de problématiques et de suspicions.
Et d'ambiguïté, effectivement.
Et on aimerait casser ça, en fait.
On rappelle, le nom de l'association, c'est les Templiers. On peut vous contacter facilement sur Internet, on vous trouve sans autre.
Oui.
Pascal Grigaud, merci beaucoup pour toutes ces informations.
Merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Des rétro ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
La pêche au son. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait OK.
Il y a pas.
Ça commence déjà à la pêche au son. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, il faut que j'invite ces personnes-là pour venir m'expliquer ce que c'est. Il y a un spectacle qui va être joué très prochainement au quartier culturel de Malévaux le 15 mai à Monté, Corne de Brume. J'accueille, pour répondre à la question, Émilie Binder. Salut.
Bonsoir.
Et j'accueille également Gérald Wayne.
Ah, voilà, maintenant ça marche ici.
Attention, doucement.
Mais c'est du jour et c'est SM2, ça c'est bon qualité, hein. C'est super, merci. Hein. C'est super d'être dans un beau studio comme ça.
Il est magnifique.
Merci pour l'invitation, en tout cas.
C'est un vrai plaisir. Ok, vous êtes venus habillés, j'allais dire déguisés, mais absolument pas. C'est un habit de travail, finalement. Vous êtes des pêcheurs et pêcheuses, donc vous êtes habillés en pêcheurs et pêcheuses. On est d'accord, Émilie?
Tout à fait. Exactement. Bah, nous, en fait, on tous les jours, on part avec notre chalutier.
C'est ça.
Et on traverse les villes qu'on rencontre, et là, on pêche des sons.
Et qu'est-ce que c'est, la pêche au son? C'est quoi exactement?
C'est une technique ancestrale qui nous a été transmise depuis notre...
Quatre générations.
Exactement.
Faut dire que quand notre grand-père, Vladimir, a reçu son premier phonographe de Edison, hein, c'était un vrai exemplaire en bois avec un beau pavillon en cuivre comme ça, et ben, ça a été comme une espèce de déflagration, une espèce de ping-pong mental comme ça dans sa tête. Il a chopé le truc comme ça, il s'est dit, mais enfin, avec ça, je peux réussir à graver du son, et puis ensuite je le réécoute, et il s'est dit, mais ça, c'est extraordinaire. Alors, il a décidé de partir comme ça dans la rue et d'essayer de choper un maximum de choses, un maximum de bruit comme ça, à récupérer dans son sac, quoi, en somme.
Et quand tu dis un maximum de bruit, est-ce que ça se sélectionne, les bruits et les sons qu'on va pêcher, ou
Alors, la pêche au son, ça se passe en trois étapes.
A.
On écoute.
B.
On capte.
C.
On stocke.
Écoute, capte, stocke. Voilà, c'est simple.
C'est extraordinairement simple. Mais on écoute quoi avant de capter?
Alors,
l'important, c'est de choisir une météo plus ou moins clémente. Aujourd'hui, par exemple, ça chouine un peu. Et on embarque sur le bateau et là, on se laisse porter. On sait jamais. En fait, on sait jamais. On sait jamais quand on rentre. Quand on part en mer, comme ça, on sait jamais quand on rentre.
L'essentiel, disons, c'est un peu d'ouvrir les oreilles comme ça. On sort, on respire un peu, on essaie de voir un peu qu'est-ce qui peut vibrer, qu'est-ce qui peut amener des sortes de vibrations un peu excellentes. Et puis ensuite, on fait son chemin, on tâtonne, hein. Forcément, on ne sait pas où se trouve le banc de son, hein. Je veux dire, il faut avancer. C'est un peu de l'essai-erreur. Après, il y a plein de techniques différentes, hein.
C'est vrai, par exemple, on a la pêche contact, qui consiste à avoir un micro avec un contact avec la matière. Alors là, on saisit l'âme de la matière.
D'autres techniques peut-être?
Oui, alors il y a aussi la pêche en eau profonde. Alors ça s'utilise avec par exemple des micros qu'on appelle hydrophones, hein, et qui nous permettent de baigner ces micros dans l'eau. Alors, ça paraît paradoxal comme ça, un peu capter les sons, capter l'électricité dans l'eau. Enfin, voilà, c'est un peu spécial. Mais donc, ça rentre dans l'eau et on entend comme si on était sous l'eau. Puis ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, quand on est sur un bateau, c'est plutôt pratique.
Et est-ce que pour trouver les bancs de son, est-ce que l'écho sonar peut être utilisé pour le coup?
C'est plutôt les champs magnétiques.
Ok.
Les champs magnétiques, là, t'es sûr d'avoir un son avec des ultra basses comme ça, et puis des aigus scintillants, et ça, vraiment, si t'arrives à choper ce son.
Après, tout est propice, hein. Je veux dire, par exemple, ici, si on se retourne, qu'est-ce qu'on a Voilà, ici, un son qui se trouve à ma gauche.
C'est les murs de notre studio qui sont en fait rénovés. Ça, c'est le bras d'un autre micro.
Voilà, c'est comme ça qu'on cherche un peu les sons. On va chercher un peu. Très joli, très 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 très, très joli. Waouh.
Un grincement de bras de micro.
Et alors, donc, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, chers auditeurs, ici, en situation de cécité totale, l'intérêt est d'un peu chercher les sons partout où on se trouve, quoi.
Et ben, par exemple, avec un élastique de jambe, là, maintenant, tout de suite. Bon, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, histoire qu'on puisse digérer un petit peu tout ça, parce que ça fait beaucoup d'informations, et après on va approfondir un tout petit peu dans ce que vous faites dans votre spectacle Corne de Brume. On se retrouve dans un tout petit moment.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Alors... La pêche au son, c'est une technique ancestrale héritée depuis des 4 générations. Lorsque votre grand-mère a Lot et Silure, les personnages dont nous avons fait connaissance il y a quelques instants, avec son phonographe Edison, capturait des sons partout. Il y a 3 étapes. Écouter, capter, stocker. Écoute, capte, stock. Ça se fait à différents degrés de profondeur. Ça peut être en surface, contre un objet ou même sous l'eau. Émilie Binder et Gérald Weng, vous êtes, on a rencontré vos personnages. Le tien, Émilie, Lot, et le tien, Silure, Gérald. Bon, parlons un petit peu de ce spectacle-là. Comment est-ce que vous pêchez les sons? Est-ce que vous arrivez déjà avec un banc de sons pêchés, ou est-ce que vous les pêchez sur le moment?
Non, alors l'idée, c'est vraiment d'inviter le public à monter sur un chalutier imaginaire, et avec ce chalutier, de déambuler dans la rue, et d'aller vraiment réellement à la pêche au son. Donc de prendre différents micros, effectivement, soit des micros qui transforment les ondes magnétiques en ondes sonores, soit des micro-contacts ou des perches, des hydrophones. Enfin bref, on a toute une ribambelle de micros comme toutes les différentes techniques de pêche. Et puis on y va, on déambule, et au fur et à mesure, on pêche des sons, on les boucle. Et puis ça fait petit à petit des histoires, des paysages sonores, de la musique.
Donc c'est en extérieur ?
C'est tout à fait en extérieur. L'idée, c'est que le public est casque obligatoire, avec des casques sans fil, ouais. De casques audio, qui permet en fait de pouvoir se brancher directement sur notre matériel. Et puis en fait, on marche, on a une espèce de cockpit qui nous permet justement, en fait, avec dedans un ordinateur, une carte son, tout un système d'enregistrement qui nous permet vraiment de capter ces sons en direct comme on les trouve dans la ville, et puis de les boucler, de les modifier, et puis de créer des sortes de paysages sonores en direct pour les oreilles des spectateurs et spectatrices.
Et l'envie, c'était vraiment de faire prendre conscience aux gens qui viennent avec nous, qui embarquent avec nous, de la subtilité du son qui nous entoure. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire sous casque et pas avec des grosses enceintes. Ouais. Mais c'est vraiment d'aller chercher un peu cet endroit qui est sensible. Celui-là.
Ouais, parce qu'en fait, moi, on disait tout à l'heure hors micro que moi, je fais partie de ces personnes qui est ultra sensible à la musique, au bruit en général. Et parfois, j'entends un marteau piqueur dans la rue. Et pour moi, c'est de la musique électronique, gentiment. Je veux dire, le bruit peut devenir de la musique quelque part dans certains cerveaux.
Mais une ville en termes sonores, c'est une symphonie. Il se passe tellement de choses. Je veux dire, entre une moto qui passe, des petits oiseaux dans un arbre, une fontaine au loin qui va se rapprocher, une personne qui va passer à côté avec, je sais pas, un chariot qui fait un peu comme ça. Et puis, enfin, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça. Moi, c'est quelque chose, en fait, en tant qu'ingénieur du son, qui est mon métier à la base, c'est une expérience que je fais presque tous les jours. jour de sortir mes micros, d'aller écouter et tout ça. Et puis vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu un peu partager autour de moi. Et puis on s'est dit avec Emily, cette expérience, elle était tellement folle qu'on avait envie de pouvoir la partager à d'autres gens qui sont pas forcément dans le métier, disons.
Et toi, tu es ingénieur du son et musicien, tandis que toi, Emily, tu es comédienne. Et comment on joint les deux choses? Comment ils se développent, le spectacle? Est-ce que c'est plutôt de l'impro ou bien est-ce que c'est de semi-impro? Comment ça se discute?
Alors, bah, y a eu deux élans. Il y avait l'élan de l'envie de partager l'écoute.
Rapproche-toi juste un tout petit peu du micro, s'il te plaît.
L'envie de partager cette écoute qui venait plus de Gérald. Et moi, j'avais une envie qui était de refaire découvrir l'espace public physiquement aux gens. Donc, de se balader dans un espace qu'on connaît parce qu'on le traverse tous les jours pour aller, j'en sais rien, moi, au boulot, à l'école, chez des amis. Et donc ces deux endroits mis ensemble, ben ça a créé de la déambulation avec les casques. Et on l'a construit. Moi j'ai proposé des textes à la base, et puis Gérald a proposé des banques de sons avec vraiment l'aspect technique. Et on a répété pendant 3 semaines où on a expérimenté plein de choses, on a viré plein de textes. Enfin vraiment, on a épuré pour que ce qui reste ce soit vraiment empreinte surprise. Qui aille de l'inattendu.
Et puis de toute façon, on est dans la rue. Enfin, je veux dire, on est dans la rue. Il se passe plein de choses qui sont pas prévisibles. Je veux dire, d'une représentation à l'autre, il va y avoir d'autres choses autour de nous, une autre ambiance. Je veux dire, là, on a joué le week-end dernier, par exemple. Samedi, il faisait beau. Il y avait plein de monde dans la rue. Il se passait plein de trucs. Dimanche, il faisait un peu moins beau. Donc, en plus, c'est dimanche. Il y a moins de monde. Tout est plus calme. Donc, c'est vraiment d'autres ambiances et tout ça. Puis, en plus, le spectacle, il se joue pas toujours au même endroit. Donc, on a une espèce de structure. Un peu d'histoire qui tient comme ça, qui nous permet, nous, de faire un chemin et puis de raconter, d'amener le spectateur, la spectatrice avec nous dans cette histoire. Et puis après, en fait, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, nous, de toute façon, il faut réinventer des choses parce que les endroits ne sonnent pas pareils. Il n'y a pas les mêmes mobiliers urbains à disposition. Par exemple, une barrière qui va faire un bruit peut-être très intéressant au parc du Crocheton, on va se retrouver à Malévaux dans 2 semaines. Il n'y aura pas du tout ça à cet endroit-là, donc il faudra trouver d'autres choses et tout ça.
J'allais dire en spectacle au quartier culturel de Malévaux, parce que c'est de l'art, on est d'accord. Non, parce qu'en plus, mais là, le truc qui me. Donc en fait, on va avoir un spectacle gentiment différent à chaque fois. C'est gentiment ça, ça ne va jamais être la même chose.
Non, il y a les personnages qui sont là, il y a quand même un squelette de spectacle qui est constant. Mais il y a ces surprises qui vont arriver tout le temps. Ça nous arrive tout le temps dans le spectacle, il y a toujours des surprises. Mais c'est sûr que si on est dans une boîte noire dans un théâtre, il y a moins de surprises que dans l'espace public. Et les gens qui font du théâtre en rue, c'est qu'ils s'attendent à ces surprises. Enfin, le but, c'est de jouer avec ça. Ça fait partie du deal de l'art de rue.
Donc finalement, la scène qui serait la rue en ce moment-là, à ce moment, devient un personnage à part entière, plus qu'un décor.
Forcément, et puis puisque tout ce qu'on entend est produit dans cet espace-là, les gens qui y passent et qui sont à cet endroit-là, à ce moment-là, vont être acteurs de la pièce.
Et notre boulot, c'est de cadrer l'oreille, l'écoute et le regard des gens sur cet espace public.
Tout en créant, grâce aux sonorités, qu'on y rencontre.
C'est ça.
C'est beau.
Je trouve ça, c'est magnifique en fait, je trouve ça méga ouf, c'est vraiment un truc... hyper intéressant. Donc, vous disiez que vous allez jouer le 15 mai 2024 au quartier culturel de Malévaux, à Monté. Mais est-ce que vous avez d'autres dates, peut-être ailleurs?
Oui, on a 2 autres dates déjà prévues. On joue pour la Nuit des Musées au Laténium, près de Neuchâtel, le 18 mai. Et puis, on jouera aussi en Valais, à Sion, au Pollen Festival, le 29 juin.
Ok, parfait. Donc, si on a envie de découvrir, est-ce qu'il y a une page web, peut-être, on pourrait aller regarder tout ça?
Oui, ce projet, il commence maintenant. On a fait la première il y a 3 jours. Et donc, l'idée, c'est qu'il soit diffusé dans les années à venir. Donc, on va diffuser et puis vous pourrez nous voir partout. Et les infos, elles seront sur le site de la compagnie qui s'appelle Les Productions Orcaz. Et le site internet, c'est orcaz au pluriel, orcazes.ch.
orcaz.ch. Allez regarder. Et puis, vous êtes venu avec trois petites entrées qu'on va jouer dans un tout petit moment très rapidement pour les personnes qui seraient intéressées, qui ont trouvé cette idée géniale comme moi. Merci infiniment, Émilie Binder, dite Lotte, et Gérald Wang, dit Silure. Merci infiniment, Émilie, tu es comédienne, et Gérald, tu es musicien et ingénieur du son pour le spectacle Corne de Brume. Vous êtes venu répondre à la question La pêche au son, c'est quoi ? Merci infiniment et excellente soirée.
Ouais, bonne pêche, les crevettes.
Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud.
Sur le grill.
L'expo ZEP, c'est ici au château de Saint-Maurice depuis quelques jours maintenant. Une expo vraiment magnifique à venir voir. ZEP, bonjour.
Bonjour.
Alors, le château de Saint-Maurice est devenu une institution, entre guillemets, c'est presque une célébration normale de passer par ici. Ça fait partie de la boucle pour être reconnu dans les artistes, alors que vous êtes reconnu depuis déjà très longtemps.
C'est aussi un lieu qui s'est beaucoup démarqué avec la bande dessinée. Il y a eu de belles expositions de bande dessinée ici. Donc, et puis le directeur du musée, Philippe Duvanel, est quelqu'un avec qui j'ai collaboré plein de fois, et j'avais fait une grande exposition avec lui au musée des arts décoratifs de Lausanne il y a bientôt 15 ans maintenant. Donc c'est une belle manière de se retrouver.
Alors, c'est quoi pour vous les premiers souvenirs de BD ? Si on vous parle BD, les premières apparitions, c'est quoi, c'est qui ?
Oh la vache, ça c'est dur. Non mais déjà, j'avais de la chance parce que dans ma famille, on lisait de la bande dessinée. Parce que moi, j'étais petit dans les années 70. Et dans les années 70, c'était pas super bien vu. La bande dessinée, c'était vraiment un truc pour les gamins. Il y avait pas tant d'adultes que ça qui lisaient de la bande dessinée. Évidemment, à l'époque, l'idée de la bande dessinée exposée au musée, c'était de la science-fiction pure. Mais même déjà des adultes qui en lisaient, je me rappelle que mes parents étaient souvent convoqués à l'école parce que mes profs se faisaient du souci, disaient, écoutez, c'est inquiétant parce que votre fils, il lit que de la bande dessinée, c'est vraiment pas bien. Et je pense qu'on avait un peu le regard sur la BD qu'on aurait sur les jeux vidéo aujourd'hui, c'était un peu, mais il fait que ça, il va forcément mal tourner.
Il n'y a pas d'avenir.
Il n'a pas d'avenir, ça c'est sûr. Et donc, mes parents lisaient un peu de BD, mon père surtout lisait de la BD. Et on avait à la maison, évidemment, Astérix, mais il y avait Lucky Luke, Gaston Lagaffe. Donc voilà, mes premiers souvenirs, c'est ça. J'ai lu des Astérix quand je savais à peine lire. Donc je les ai relus au fil du temps, en découvrant chaque fois d'autres niveaux de lecture. Et c'est aussi un truc qui m'a marqué dans la BD, c'est ce côté transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut rire de certains gags quand on est enfant, très jeune, où on comprend, on est plus sur le visuel. Et puis après, il peut y avoir des niveaux de compréhension qui grandissent avec l'âge. Et c'est assez cool. C'est aussi ce qui fait que la bande dessinée se transmet comme ça, de génération en génération.
Chose que vous avez d'ailleurs appliquée. On en a parlé avec Philippe Duvanel dans l'interview précédente. Vous avez appliqué ça aussi, vous, dans Titeuf. On peut le lire à différents niveaux de lecture et à tous les âges.
Alors, c'est les lecteurs qui l'appliquent. Hein. Nous, en tant qu'auteurs, on espère toujours, mais on ne sait jamais, on ne peut pas préméditer ça. Ça peut marcher ou pas forcément. Il se trouve que, ouais, je vois beaucoup de lecteurs. Je vois beaucoup d'anciens lecteurs de Titeuf, hein, des lecteurs d'il y a 25-30 ans, qui sont jeunes parents aujourd'hui, et qui viennent avec leurs enfants, et qui viennent me faire dédicacer parfois leurs propres albums, qui sont dans un état déplorable, pour les offrir à leurs enfants et les transmettre. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc très très chouette.
Justement, qu'est-ce qui vous éclate quand vous faites des BD ? Que ce soit Titeuf ou tous les autres, qu'est-ce qui vous plaît ?
Moi, j'ai toujours adoré dessiner et raconter des histoires. Donc pour moi, la bande dessinée, c'est un peu le métier. Et si j'étais orientateur professionnel, je dirais, vous, il faut faire de la BD, quoi. Ça semble vraiment taillé pour vous. Et donc parfois, c'est plus le scénario qui m'intéresse, parfois plus le dessin. Pendant très longtemps, quand j'étais enfant, c'était surtout de dessiner et de faire rire mes copains avec mes dessins. Et c'est comme ça qu'on prend aussi conscience du pouvoir que peut avoir un dessin, de ce qu'il peut faire, déclencher chez les gens, les émouvoir, les faire rire. Et on a envie, quand on arrive à faire ça de temps en temps, évidemment, on a envie de faire ça tout le temps.
Titeuf, moi, quand j'ai commencé à lire ça à gamin, c'est le pote qu'on avait envie d'avoir, le pote avec qui on avait envie, clairement, de faire des conneries. Comment vous l'avez créé ?
Je pense que c'était aussi le pote que j'avais envie. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup moins téméraire que Titeuf quand j'étais enfant, mais j'étais souvent celui qui soufflait la mauvaise idée de trucs à surtout pas faire. Et je pense que j'ai gardé un peu cet esprit-là après, parce que souvent, quand on me disait « il faut surtout pas faire ça, il faut pas dessiner sur tel sujet, il faut pas faire ça », forcément, je pensais plus qu'à ça et j'avais envie de le faire. Donc, j'ai aussi mené ma carrière de manière un peu à contre-courant, et pour finir, ça m'a plutôt bien réussi, mais j'ai souvent pris des orientations qui n'étaient pas du tout les orientations qui étaient conseillées ni par le mainstream de l'édition, ni par la presse, ni par mon entourage parfois, qui me disait « mais fais surtout pas un album pour les adultes, tu es l'auteur de la jeunesse ». Et je trouve que c'est bien d'aller... ce qui est important toujours quand on est auteur, c'est peut-être le seul devoir qu'on a peut-être par rapport à ses lecteurs, c'est qu'on doit continuer à s'amuser, parce que ça, c'est communicatif. Si on s'emmerde, c'est aussi communicatif.
L'exposé, c'est en ce moment au château de Saint-Maurice jusqu'au 17 novembre prochain, château-saint-maurice.ch. On retrouve Zep d'ici quelques instants.
C'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Et nous, c'est Zep dans le cadre de son expo à Saint-Maurice qu'on retrouve maintenant.
Si j'avais 40 ans de plus et que j'avais fait de la bande dessinée dans les années 60, ça aurait été une autre histoire. Parce que à cette époque-là, si on avait la chance tout à coup d'avoir du succès dans une bande dessinée, eh ben, il fallait enfoncer le clou, il fallait faire toujours la même série, il fallait souvent engager même un studio pour vous aider, pour être plus performant, faire plus d'albums. Et moi, je pense que j'ai eu aussi une chance, c'est qu'un peu par hasard, Titeuf s'est retrouvé édité chez Glénat, qui était plutôt une maison d'édition de bande dessinée d'auteur. Donc on m'a jamais proposé ce genre de truc, et on a toujours respecté un peu le côté c'est un auteur, il fait ce qu'il veut. Donc bon, il nous casse un peu les pieds avec ses caprices, mais il fait ce qu'il veut. Donc tout à coup, il a envie de faire autre chose, il fait autre chose, et on attend le prochain. Et c'est pas que j'ai envie, c'est pas du caprice, c'est juste que à un moment, tiens, j'ai envie de raconter une histoire dramatique, ou une histoire plus politique, ou de la science-fiction, et tout ne va pas forcément avec Titeuf, donc je vais développer un autre registre, et puis le faire dans un autre registre, et le succès de Titeuf me permet aussi de faire ça, donc c'est plutôt bénef, ouais.
Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ici à Saint-Maurice? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer aussi, en plus peut-être de simplement Titeuf?
Alors là, je suis vraiment laissé porter par Philippe Duvanel, qui est le directeur du musée et que je connais depuis longtemps et qui connaît très très bien mon travail. Donc il est venu chez moi, on a passé des journées à fouiller dans mes archives, on a exhumé des choses, imaginons, on a exhumé, on a ressorti des dessins de quand j'ai 4 ans et demi, donc on est vraiment remonté dans le temps très très loin. Et puis, c'est un exercice très bizarre de faire une expo rétrospective. Généralement, une expo rétrospective, c'est quand vous êtes mort. Parce qu'on peut faire une rétrospective qui est objective, on sait qu'il n'y aura plus rien. Tandis que là, depuis qu'on a fini de trier les dessins, moi j'en ai refait d'autres depuis, donc ça pourrait ne jamais s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un regard extérieur qui dit « Ok, moi je vais montrer ça, je vais mettre ça en perspective ». Moi je lui ai fait confiance, et à l'arrivée, je suis très content parce que c'est une sorte de... C'est une impression un peu bizarre, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps, c'est-à-dire que je passe dans des salles où je vois ma vie il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et l'importance est mise à certains dessins, pas à d'autres, donc on comprend aussi, je crois que lui a bien compris aussi le cheminement, ma vie de dessinateur, ce qui s'est passé, donc il montre ça. Et puis l'idée, c'est aussi à la fois de montrer des choses, des pièces un peu incontournables que les gens attendent de voir ici, mais aussi des choses que les gens n'ont jamais vues. Donc on a vraiment exhumé des trucs. Même là, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un historien de la BD qui suit mon travail depuis longtemps, qui était là, il dit « Oh, mais j'ai jamais vu ça, les premiers dessins de Titeuf ». Donc on a retrouvé vraiment des choses, je pensais que j'avais plus. On a retrouvé des scénarios de Titeuf faits par Chapat, faits par Valiot, enfin pour le premier album, où on était une petite équipe de copains, où tout le monde s'entraidait un peu, donc je suis retombé là-dessus, c'était des fouilles quasi archéologiques.
Et puis du coup, ça fait du bien en fait, vous vous êtes fait plaisir j'imagine avec ça. L'avenir de Zep, c'est ma dernière question, l'avenir de Zep c'est quoi? Parce que justement, c'est pas fini, ça c'est une rétrospective, on en refera sûrement une tous les 10 ans s'il faut.
Ouais, c'est ça, moi j'ai déjà, je suis un enfant gâté par rapport à ça, enfin je sais pas si on peut dire enfant gâté, parce que chaque fois que je fais une expo, je me dis c'est la dernière, ça rend trop de boulot. Mais depuis 2004, j'ai eu des expo rétrospective, donc ça doit être, je sais pas, la 6 ou 7e. Donc j'ai déjà eu ce genre d'exercice plusieurs fois. Mais effectivement, il y a toujours ce côté de dire, ok, c'est comme un bilan, donc ça veut dire qu'après, il faut faire autre chose, il faut changer de métier. Ou...
Faire de la musique.
Alors c'est une année où je consacre beaucoup de temps à la musique, pour la première fois depuis très longtemps. Et puis, je vais être un peu prévisible, mais je pense que je vais continuer à faire de la bande dessinée aussi.
C'est ce que, franchement tout ce qu'on espère. Merci beaucoup, Zep.
Merci.
Zep, que vous retrouvez donc au château de Saint-Maurice, une magnifique exposition qu'il faut vraiment, vraiment aller voir jusqu'au 17 novembre, cette exposition. Et puis on a parlé musique, on vous rappelle que c'est avec le groupe The Woo, qu'il a avec sa chérie, et je vous conseille aussi d'aller écouter parce que c'est des très, très jolis morceaux.
C'est chaud sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Région.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Ça souffle, c'est normal. C'est Dorena ou Doren pour les intimes, n'est-ce pas Yasmine?
Toujours Doren.
Toujours Doren. Bon, je crois savoir ici que ben, on discutait que le caillou il était assez important. Il y avait des ardoises. Qu'est-ce qui faisait que l'ardoise soit aussi bien d'ailleurs?
C'était notre ardoise Dorena, elle était reconnue parce qu'elle était extrêmement pure. Donc on voit, elle a une belle couleur bleue, elle n'a pas de petits points blancs qui est du calcaire, qui fait que l'ardoise Dorena, elle était d'extrêmement bonne qualité. Donc elle durait beaucoup plus longtemps que les autres sur les toits, quoi. Il y avait, elle dure des... Voilà, on a des toits qui datent de très longtemps.
Et est-ce que plus dur est l'ardoise, plus dur est la tête aussi des diablerins et diablerennes?
Un peu.
Bon, donnons envie aux gens de venir par ici. Qu'est-ce qu'on a comme événement ou activité à ne pas manquer?
Ah, alors le prochain événement qu'on a, c'est la course pédestre du Trophée du Sécaro. C'est le 8 juin, le samedi 8 juin prochain. C'est notre 40e édition. Non, oh. 20e édition.
Ah, 20e, parce que c'est les 40 ans de Radio Chablais. J'ai dit, attends, bah.
Alors attends, c'est notre 20e édition, mais la première édition était en 1978.
Oh, bah, bah.
Alors, il y a eu 10 Comment éditions, 1978 à 1988. Et puis, il y a, en 2012, on s'est retrouvé une petite équipe de copains. On se rappelait quand on était petits, on se disait, oh, c'était trop bien, cette course pédestre et tout, si on la relançait. Et on a relancé ça autour d'un bon verre. Et voilà, on est, je dirais, la 10e édition de la deuxième fois. On a gardé le tracé historique.
Oh, joli.
Ouais, c'est un tracé assez difficile. Donc, on relie la maison d'école à la cabane du Sécaro. Donc, c'est 1500 mètres de dénivelé pour 7,5 km.
Ah, quand même.
Ouais, pour le grand parcours. Après, il y a un petit parcours qui va de Dorena à Alès, qui permet aux familles de monter en téléphérique et puis d'aller rejoindre les enfants sur la ligne d'arrivée. On a une marche aussi parce qu'on vieillit un petit peu. Les anciens coureurs vieillissent un petit peu. Donc, on a une marche. Donc, on va faire une fête pour cette 20e édition. Voilà, quand on va faire un peu la fête toute la soirée aussi. Et puis...
Quelle date déjà ?
Le samedi 8 juin. Et puis on verra si les records, aujourd'hui c'est Rémi Bonnet, là, qui est bien connu, et Maud Matisse qui ont les records. Donc on verra si... quelqu'un les bat.
Oh, ou avec un peu de chance, ils viennent exploser leur propre record, ça ne m'étonnerait pas non plus. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici?
Alors, quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les villages, c'est la course de tracteur-tondeuse. Est-ce que tu as un tracteur-tondeuse?
Malheureusement pas, mais je pourrais en trouver à un moment donné.
Voilà, donc le 7 septembre, c'est aussi la 10e édition d'une course de tracteur-tondeuse. Donc ça a germé aussi dans l'idée un peu folle de quelques diablerins. Vous avez une tondeuse, tracteur. Voilà, il y a quelques petites spécificités techniques, donc enlever les couteaux et tout. Et puis,
ah, quand même, oui.
Ouais. Et puis, vous tournez dans un pré préparé. C'est une boucle de à peu près 400 mètres. Il y a, c'est 5 manches. Et puis, vous y allez. C'est super chouette. C'est en équipe. Hein. Il faut être en équipe pour conduire.
Comme les 24 heures du Mans, en fait.
C'est un petit peu ça. Mais non, c'est vraiment chouette. On a vu aussi parfois des tondeuses, des tracteurs tondeuses électriques s'essayer. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais c'est surtout super bon enfant et il faut venir les voir parfois dans la boue et tout. Mais c'est vraiment des fans. Et puis si ça vous démange, je suis sûre que le comité il est prêt à vous donner quelques astuces.
Oh, bon ben, il va falloir qu'on vienne en fait, c'est dommage ça. Et surtout que cette histoire, moi, elle me botte, les concours de tondeuses à gazon.
Ouais, des tracteurs tondeuses, donc c'est assis.
Tracteurs tondeuses.
Ah ouais, assis dessus et tout, et c'est génial, ça peut aller super vite. On a eu, il y a quelques années, il y avait des professionnels de cette course qui sont venus nous montrer des machines, ben, faites vraiment que pour la course. Mais là, allez-y avec votre tondeuse et tout, et puis faites-vous plaisir.
Le Lavaux allait tracasser, Dorena allait tracteur tondeuse.
Radio Chablais.
Le nombril du mot. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle ?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, on fait un focus sur les tomates. Avec les températures qui sont remontées en flèche ces derniers jours, j'ai eu envie de rester au soleil. On se comprend, c'était au soleil avant aujourd'hui, parce que quand j'ai regardé par la fenêtre ce matin, j'étais un peu déprimée. Mais bon, j'avais envie de rester au soleil avec une boisson fraîche, de la bonne musique et une petite salade de tomates mozza. Bon, alors, je sais que la tomate, c'est pas encore tout à fait de saison, mais voilà, ce week-end, il faisait beau, puis bah, j'ai voulu manger des tomates, voilà. Et puis, quand j'en ai parlé autour de moi, ça a soulevé un petit débat, à savoir, est-ce que la tomate, c'est un fruit ou est-ce que c'est un légume ? Et je peux vous dire que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur les tomates. C'est le cas de le dire. Genre, la tomate, c'est un fruit, c'est pour ça qu'on l'appelle la pomme d'amour. Ou encore, bah, c'est celle-là qui m'a fait le plus rire, c'est si la tomate était un fruit, on en ferait des gâteaux à la tomate. Alors là, j'ai envie de vous dire, la carotte, c'est pas un fruit, et pourtant on en fait du gâteau avec. Alors j'avoue, je trouve pas ça très bon, mais bon, chacun ses goûts, on n'est pas là pour juger. Et c'est vrai que dans pas mal de supermarchés, quand on doit aller peser ses fruits et ses légumes soi-même, il y a souvent trois catégories. Il y a les fruits, les légumes et les tomates. On sent ici toute la diplomatie dont on fait preuve ici en Suisse. Donc, ma curiosité ayant finalement été titillée, bah, je suis allée comprendre l'origine de ce débat. Et en fait, la tomate est considérée comme les deux. Tout dépend du point de vue. C'est-à-dire, d'un point de vue culinaire, bah, la tomate, c'est clairement un légume. Vraiment, les cakes à la tomate, ça devrait toujours rester salé, ça devrait jamais être considéré comme un dessert. Ben voilà, ça c'est mon petit grain de sel.